Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme chaque semaine, on est sur Sporama, on va parler de sport évidemment dans cette émission qui vous est réservée pendant 25 minutes. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook VOA Afrique. Également nous appeler en direct 001 202 205 26 33 001 202 205 26 33. On va saluer nos intervenants ce soir. À ma gauche, dans ce studio ici en direct de Washington, Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également celui qui se trouve à Boïcon, Bénin, Élisée Ngoupatine. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir Nicolas et bienvenue au Bénin.
On va également saluer Amdine Sy qui se trouve à Paris. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
On va saluer également celui qui se trouve au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Allez, on va évidemment, messieurs, reparler de ce qui s'est passé ce week-end sur le continent et notamment la Ligue africaine des champions, puisqu'on connaît l'affiche des demi-finales. Les Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel qui ont battu 2-0 les Libyens d'Al Ahly Tripoli. C'était dimanche à Sousse en quart de finale, retour de cette Ligue des champions. Et dans le dernier carré, l'Étoile évidemment sportive du Sahel qui rentrera l'équipe égyptienne d'Al Ahly qui a battu l'autre équipe tunisienne, l'Espérance de Tunis. Amine Birouk, évidemment, on aura cette première demi-finale, l'autre d'ailleurs, cette première demi-finale qui sera évidemment une demi-finale nord-africaine.
Cette première demi-finale, Nicolas, c'est un remake de la finale de 2007. On se rappelle de la victoire de l'Étoile sportive du Sahel au détriment d'Al Ahly avec une victoire au Caire. Cette fois-ci, le match aller aura lieu à Sousse. Les Tunisiens ont battu facilement l'équipe d'Al Ahly Tripoli 2-0. Ils ont eu besoin de deux buts de leur attaquant Malahi, leur attaquant égyptien Malahi qui vient d'Enpi pour faire la différence et convertir le match aller qu'ils avaient réussi, le 0-0 qu'ils avaient réussi au match aller en qualification pour les demi-finales. On attendait un peu moins l'Ali d'Égypte, surtout après le nul Alexandrie, 2-2. Beaucoup de critiques sur les joueurs qui rotent de la part de la presse égyptienne après le match aller. Ils ont eu suffisamment de caractère pour pouvoir remonter le handicap du but concédé à la 40e minute par Khenissi sur penalty à Rades avant de totalement retourner la situation et de l'emporter sur le score de 2-1. Sans dire long sur le métier de ces deux formations qui sont rodées aux joutes continentales, qui sont habituées à ce stade de la compétition et qui ont pour ambition d'aller au bout.
Merci beaucoup Amine, on va évidemment parler de l'autre demi-finale puisque les Marocains du WAC Casablanca ont été tombeurs évidemment des Mamelodi Sundowns. Élisée Ngoupatine à Boïcon au Bénin, le tenant du titre sud-africain qui ne rééditera pas son exploit de l'année dernière, les Mamelodi Sundowns qui tombent du coup dans ces quarts de finale.
Un match très difficile pour les Sud-Africains, Nicolas, il faut le dire, puisque déjà à l'aller du côté de Pretoria, ils ont été mis en difficulté par les Marocains qui, au fil des rencontres, ont commencé par, en tout cas, montrer un autre visage dans cette compétition. C'est un peu la marque des clubs venus du Maghreb. Maintenant, suite à cette rencontre, retour, eh bien, ils ont forcé, ils ont bien défendu, mais c'était sans compter sur celui qui allait a fait du mal. Maintenant, dans les prolongations, ils auraient pu marquer ce but-là si Yannick Zaki, l'Ivoirien, n'a pas gâché cette occasion-là qui pouvait les permettre de se qualifier pour la suite de la compétition. Mais la suite, vous la connaissez très bien, c'est sur la séance des tirs et buts que les Marocains ont été les plus adroits. Malheur à cette équipe sud-africaine qui ne défendra pas son titre comme l'a fait déjà en 1995 Orlando Pirates quand les Sud-Africains battaient la SEC en finale.
Merci beaucoup. Alors évidemment, je me retourne évidemment vers Amine Birouk. Amine, le WAC qui affrontera évidemment en demi-finale l'USM Alger qui s'est débarrassé du Ferroviaro de Beira. On le reparle de cette belle performance du WAC.
On en reparle, c'est la deuxième année consécutive où le WAC se retrouve en demi-finale. Le public du WAC de Casablanca attend une consécration africaine depuis 1992, année du seul sacre des rouges et blancs. Le match a été compliqué. Le Wydad manque actuellement d'un finisseur, vu que le Libérien Djibourg, qui avait terminé meilleur buteur du championnat du Maroc la saison dernière, a été transféré, ou plutôt son prêt est arrivé à son terme et il a dû repartir vers son club portugais avant d'être transféré en Arabie Saoudite. Le Wydad n'a pas pu profiter de cette intersaison pour pouvoir recruter un calibre devant, et l'équipe a dû cravacher pour pouvoir réussir à l'emporter au tir au but. Le match a tenu en haleine les 40 000 spectateurs qui étaient présents au stade, et il va falloir maintenant corriger la copie en prévision du match prévu vendredi à 17h en temps universel face à un adversaire du même calibre que les Mamelodi Sundowns. Je veux parler de l'USM Alger.
Merci beaucoup. Allez, on va parler évidemment de la Coupe CAF, hein, qui a également beaucoup évidemment enchanté les fans de football, notamment les Congolais du tout-puissant Mazembe, tenant du titre. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe CAF. Ils avaient évidemment marqué un point important avec cette victoire 2-1 au Soudan. Ils se sont confortablement imposés 5-0 sur leur pelouse de Kamalondo. C'était dimanche devant les Soudanais d'Alila Lobied. Je vous propose d'écouter l'entraîneur du tout-puissant Mazembe. On va écouter Porfil Miayo.
Au match aller, on a vu que cette équipe-là avait une défense trop lente. Alors, il fallait mettre de la vitesse, des ballons toujours en profondeur. Voilà ce qu'on a demandé à nos deux joueurs de côté, Chico Ushindi et Adama Traoré, d'appeler de temps en temps en profondeur ce qu'ils ont fait. Ils se retrouvaient toujours en avance par rapport aux défenseurs adverses parce qu'ils étaient rapides. Ils ont mis ça en pratique et voilà, ça fait la différence. Parce que si vous regardez le but qu'on a marqué, c'était pratiquement sur le ballon profond et puis des centres sur le côté.
Voilà, c'était Panfil Miayo, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe. On a retrouvé évidemment Élisée Oumpatine, hein, qui avait suivi ce match pour VO Afrique. Élisée, hein, doucement mais sûrement, le champion en titre qui, évidemment, passe encore une étape importante. On va avoir une demi-finale pas facile, hein, contre le FUS de Rabat. On en parlera avec Amine Birouk. Mais Mazembe qui fait le boulot, hein, contre une équipe qui était, il est vrai, de moindre calibre. Hein.
Ouais, du moins le calibre, Nicolas, vous l'avez dit, hein, parce que face à FUS, ce sera encore plus difficile. Mais notre, le temps est que pour cette édition, on aura 6 représentants venus du Maghreb, non seulement deux équipes du Sud-Sahel, notamment le plus puissant Mazembe de la RDC Congo, puis des super forces, une équipe d'Afrique du Sud, une équipe pas trop attendue à ce niveau-là. Maintenant, les Congo ont eu cette expérience énorme, hein, surtout de 10 joueurs à domicile. Et retenez simplement qu'ils sont intraitables à domicile, même si ils ont été contre au passage des points en poule contre Super Sport. C'est une équipe qui est difficile à jouer à domicile. Maintenant, pour les matchs à l'extérieur, c'est vrai que ça a été un peu difficile pour eux, mais à ce niveau de la compétition, Panfil Miayo l'a dit, là, en spécial fort au fil du Rabat, ce serait un match très déterminant, hein, pour la suite de la compétition. Et en voyant les joueurs que composent maintenant les Corbeaux, on peut être sûr que ça va être un match du 50-50, surtout que les Congolais vont recevoir d'abord le match aller à domicile. Ils vont essayer de faire le plein en attendant de se déplacer du côté du Rabat.
Alors justement, on retourne avec Amine Birouk. Amine, on le disait, hein, cette prochaine demi-finale, hein, qui attend le tout-puissant Mazembe, ce sera bien évidemment contre le FUS de Rabat. Le FUS de Rabat qui s'est imposé 1-0, ce n'était pas suffisant après évidemment cette défaite, hein, face au CS Faxien à l'aller, mais au tir au but, le FUS qui se qualifie 5 tirs au but à 4, là encore une belle prestation pour le football marocain, hein, qui a encore une fois une équipe dans le dernier carré de la compétition continentale. Hein.
Et c'est la deuxième année consécutive pour, en ce qui concerne le FUS en Coupe de la CAF. Le FUS qui s'est montré assez globalement solide sur les 180 minutes de la confrontation face au club sportif Sfaxien. Il n'a pas trop souffert. Certes, il y a eu ce pénalty de la Ouadi après 20 minutes de jeu qui a permis d'équilibrer la balance entre les deux formations. Mais il n'y a pas eu de grosses occasions ou de grosses alertes par la suite devant les buts du FUS. On a même eu l'impression que les joueurs du FUS qui ont eu 52% de possession étaient capable de faire la différence. Ça ne s'est pas fait, donc il a fallu départager les deux formations au tir au but. Et à cet exercice, il y a eu quand même 5 tentatives réussies sur 5 de la part des joueurs du tenant du titre de l'édition 2010, qui retrouve le TP Mazembe pour un remake de la Super Coupe d'Afrique. C'était retrouvé en 2011 à Lubumbashi et les Corbeaux l'avaient emporté au tir au but. Il y a eu aussi une double confrontation en phase de poule, saison 2012-2013, avec une victoire à Rabat du FUS 2-0 et une défaite à Lubumbashi 3-0. L'équipe possède suffisamment de métier, de maturité. Il y a quelques jeunes qui sont arrivés à l'intersaison qui pourraient apporter un peu plus de punch offensif. Mais après priori, sur le papier, le favori demeure le tout-puissant Mazembe.
Et on aura une autre demi-finale, Club Africain contre le Supersport United. Supersport United, les Sud-Africains qui sont partis se qualifier en Zambie après un match nul, 2-2. On va me faire signe qu'on a un auditeur en ligne, on va prendre Brahima Doumbia. Brahima, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors vous vouliez revenir sur cette demi-finale qui s'annonce un tout-puissant Mazembe Fus de Rabat.
Effectivement, il faut le dire, de toute façon, même étant un grand club, et surtout africain, quand on regarde les statistiques de ces deux clubs, on a l'impression que ces deux clubs ont le même palmarès, surtout les 5 derniers matchs. On voit le tout puissant Mazembe qui a pu remporter 3 de ses rencontres et le Fus aussi qui a pu remporter 3 de ses rencontres sur 5 rencontres. Je pense que ce sera une finale, si vous voulez, ou un match très équilibré et très, très tactique surtout. Je pense que le final sera du côté, si vous voulez, du président Mazembe, qui a de l'expérience, qui a aussi des moyens financiers. Quand on sait un président qui est capable d'investir d'énormes sommes pour recruter des joueurs talentueux.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Brahima Doumbia. On reste évidemment connecté sur VOA Afrique. On va marquer une petite pause dans cette émission. Allez, on va parler à présent d'un tournoi qui était même retransmis sur Fox Sports, la chaîne américaine. C'est évidemment le tournoi de l'UFOA qui s'est déroulé au Ghana et le pays organisateur qui s'est imposé. Les Black Stars ont facilement dominé en finale les Super Eagles du Nigeria, 4-1, en présence d'Ahmad Ahmad, le président de la CAF qui se trouve au Ghana pour le comité exécutif. Le Niger remporte la petite finale, malheureusement pour vous, Élisée Ongpatine, devant le Bénin. 2-1, c'était le score de la petite finale, Élisée. Hein.
Oui, ça a été un match très difficile hein, pour l'un de Omar Tomogo, ancien capitaine dans cette sélection. C'est vrai que le Bénin les avait déjà battus en poule, hein, 2-1, voilà, pour la fin de se qualifier pour les demi-finales. Maintenant, hier, on a vu une autre équipe nigérienne très déterminée avec un Béninois naturalisé, d'ailleurs, nigérienne. Il s'agit de Adebayo qui nous a posé d'énormes problèmes déjà hein, lors de notre première confrontation. Eh bien, nous a mis beaucoup en difficulté. Il y a encore, c'est lui qui nous a tellement posé des problèmes. Il a malmené la défense béninoise et encore lui qui a permis aux Nigériens de remporter bien sûr cette troisième place. Maintenant, c'est un parcours qu'il faut saluer puisque c'est pas évident. Il faut jouer et beaucoup de matchs seulement en une semaine. Donc, c'est très difficile pour les Béninois et qui ont en tout cas montré de très belles choses en battant d'abord le Cap Vert, puis la Côte d'Ivoire qui n'était pas évident, mais c'est vrai que contre le Sénégal, eh bien, on a baissé des gars et puis on a encaissé 4-0. Maintenant, pour la suite, il faudra que Omar Tomogo puisse intégrer d'autres joueurs dans cette formation, puisque l'effectif nous a tellement posé des problèmes. Il n'y a pas eu véritablement ceux-là qui pouvaient échanger les joueurs blessés ou les joueurs fatigués sur le terrain. Maintenant, la suite, ça s'annonce difficile. Il y a un match amical contre le Gabon, ce sera en France, j'allais dire le 7 octobre prochain. Donc, on attend. Bravo aux Nigériens, bravo à François Zahi qui est en train de faire du très bon travail du côté de Niamey.
Merci beaucoup Élisée. On va parler à présent de l'information qui a été donnée en provenance du Ghana. Je le disais, le comité exécutif de la Confédération africaine de football qui se réunit sur place et la CAF qui a décidé de retirer l'organisation du CHAN 2018 au Kenya pour des retards accumulés. On rappelle Yacouba Ouédraogo que le CHAN, c'est la compétition réservée aux joueurs locaux, contrairement à la CAN. C'était attendu, mais en tout cas, cette fois, c'est officiel. Le CHAN ne sera pas organisé l'année prochaine au Kenya.
Oui, Nicolas, c'était très prévisible avec ce qui se passe présentement au Kenya, notamment sur le plan politique. Mais même sur le plan sportif, hein, lorsqu'on a 4 stades à réhabiliter ou encore à construire pour une compétition et que jusque-là, on n'a qu'un seul stade qui est prêt, alors que la compétition, c'est juste dans quelques mois, je pense qu'ici, la CAF a pleinement tous les pouvoirs et toutes les raisons possibles de retirer l'organisation du CHAN hein, 2018 au Kenya. Mais c'est surtout aussi le fait que politiquement, ce pays n'est pas encore stable jusque-là avec le report des élections présidentielles prévues pour octobre.
Et alors, vous me disiez, hors antenne, Élisée Ongpatine, vous me disiez que, notamment, selon vous, selon vos informations, peut-être le Kenya et la Tanzanie seraient en position d'outsider pour remplacer le Kenya sur cette organisation.
Oui, il faut le dire, puisqu'il y a
confrères qui sont en train, qui ne sont pas encore rentrés du Ghana. Donc, ce sont ceux qui sont en train d'apporter l'information. Peut-être hein, qu'ils ont eu auprès du comité exécutif de la Confédération africaine de football qui séjourne toujours encore du côté d'Accra au Ghana, mais ce n'est pas encore officiel, hein. Rien n'est encore officiel par rapport à cette information. Le Ghana a d'énormes infrastructures, il faut le dire, depuis l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2008 et bien. D'autres stades ont été construits, notamment le stade de Cape Coast, hein, qui avait dû être abrité le tournoi de l'UFOA avec 15 000 places, un très grand joyau, il faut le dire. Aussi le stade de Takoradi, qui a d'ailleurs abrité les matchs du groupe B. On se rappelle la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Nigeria, et finalement ce sont les Nigériens et les Ivoiriens qui se sont qualifiés. Il y a aussi le grand stade de Kumasi, le stade Baba Yara de Kumasi, qui permet au club mythique du Ghana d'Argentine contre encore de jouer ses rencontres. Et puis le stade, le stadium d'Accra, c'est 60 000 places, le grand stade d'Accra, donc avec quatre grands stades, eh bien, le Ghana peut accueillir cette compétition. Maintenant, du côté de Tanzanie, bon, on n'a pas tellement les informations. C'est que le pays a un grand stade. Est-ce que la Tanzanie va co-organiser cette compétition avec l'Ouganda ou encore la Zambie? On n'a encore aucune idée, mais je l'ai dit, je le précise encore, cette information n'est pas encore officielle. C'est dans les coulisses qu'on est en train d'apprendre. Les choses de suite, entre la Tanzanie et le Ghana, eh bien, moi je dirais que le Ghana a une forte chance hein, d'abriter cette compétition. Maintenant, il y aura aussi des équipes venues du Maghreb, hein, notamment l'Algérie, le
oui, alors,
la Tunisie, oui, qui peut prétendre organiser, n'oublions pas l'Afrique du Sud et le Nigeria aussi.
Alors, on va poser la question à Amdine Sy qui se trouve à Paris. Amdine Sy, on a évidemment beaucoup parlé de cette confédération africaine, de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Et finalement, on a en tout cas une première décision concrète de retirer une organisation à un pays qui n'est pas prêt. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce?
Voilà, c'est vraiment dommage, hein, le fait de retirer l'organisation du CHAN au Kenya. C'est vrai, il y a des raisons politiques, mais il faut aussi savoir que les responsables de la CAF ont tendance à jouer avec le feu. Ils l'avaient fait au Gabon. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations dans un contexte très difficile sur le plan politique. Cette année, avec les Kenyans, c'est la même chose. Avec le Cameroun, ça risque également d'être la même chose. Pourtant, le CHAN est une compétition vraiment qui était à saluer, puisque même si on critiquait Issa et tout, je pense que le fait d'organiser le CHAN faisait partie des points positifs de son bilan. Maintenant, à 3 mois de l'organisation de cette compétition ô combien importante pour les joueurs locaux, voilà, c'est incertain. Maintenant, les responsables de la CAF doivent savoir que le fait de choisir un pays pour organiser des compétitions, ce n'est pas un jeu. Ils doivent trouver un pays stable, un pays qui a des incertitudes. Sinon, on aura toujours le même problème, Nicolas Pinot.
Alors, Yacouba Ouédraogo, vous voulez rajouter hein?
Justement, je rebondis sur ce qu'Amdine disait tout à l'heure. Organiser la CAN ou encore le CHAN dans un pays africain qui dispose déjà d'infrastructures. Il y a aussi cette décision de la CAF de retirer l'organisation de la CAN moins de 23 ans à la Zambie pour l'attribuer désormais à l'Égypte. Et donc, coup sur coup, on retire pour le CHAN, on retire bien sûr l'organisation de la CAN des moins de 20 ans à la Zambie pour l'attribuer à l'Égypte. Il y a le Cameroun avec un gros point d'interrogation. Et donc moi je pense que de plus en plus il faudra que la CAF tienne compte des infrastructures déjà construites avant d'attribuer les compétitions africaines, au lieu de, par exemple, un pays qui dispose juste d'un stade et qui dit, bon, je vais construire 3 stades en plus avant de pouvoir qu'il y ait une compétition. Il faut de plus en plus tendre, bien sûr, vers des pays qui sont déjà presque prêts, plutôt que d'attribuer la compétition à des pays et puis qui voudront construire par la suite des infrastructures.
Alors, on va poser la question à un auditeur tchadien qui nous appelle, hein, c'est Valentin. Bonsoir, Valentin.
Bonsoir.
Alors Valentin, vous, ce retrait de l'organisation de la compétition, le CHAN 2018 au Kenya, qu'en pensez-vous?
En fait, je disais que c'était très normal dans le CHAN, parce qu'actuellement, voyons la tension qui s'est vue au Kenya, il y avait l'enlèvement des élections, ça c'est sur le plan politique, on ne peut pas mettre les joueurs dans l'insécurité. Parce qu'après le report des élections, il y aura le conflit post-électoral. Donc les joueurs, on peut pas ramener les joueurs dans des pays comme ça. Et voyons au Kenya. Actuellement, j'espère que Le Kenya, c'est moi que le mixte quitte à buter pour le match. Mais des structures comme ça, on peut pas jouer des compétitions là. Donc, il faut que le ministre des Sports kenyan puisse fournir des efforts pour avoir au moins 5 à 4 dates dans leur pays pour avoir accueilli des compétitions. J'espère que j'avais dit dans mon commentaire que le Kenya n'est pas capable d'accueillir cette compétition.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir appelé depuis le Tchad. C'était Valentin qui était avec nous. On rappelle que concernant l'organisation de la CAN 2019, PricewaterhouseCoopers, qui était le cabinet d'audit qui avait été choisi, cette fois il s'est retiré. Et donc, du coup, il y aura un nouvel appel d'offres. Donc, pour le moment, on est un peu en stand-by concernant le retrait ou non. On a eu cette rencontre, évidemment, qui était non officielle de Samuel Eto'o avec Armat Armat lors d'un déplacement privé. C'était à Kinshasa, puisque Constant Omari, évidemment, avait perdu ses frères, évidemment, le deuxième vice-président de la CAF, et tout le monde a été présenté ses condoléances à Constant Omari. Il y avait cette rencontre qui sera peut-être déterminante pour la suite, on le verra en tout cas, entre Samuel Eto'o et Armat Armat. On suivra ça, évidemment, sur VOA Afrique. Il nous reste quelques minutes avant, évidemment, la suite et la fin de cette émission. On va peut-être parler de cette deuxième journée de la Ligue des Champions qui commence demain. Et ce choc Real de Madrid, Borussia Dortmund, très intéressant. Le Borussia Dortmund qui est déjà en tête avec un super Pierre-Emerick Aubameyang, auteur évidemment de 8 buts en 6 matchs. Amdinsi, vous êtes barcelonais, mais comment vous voyez ce match, évidemment, qui aura lieu en Allemagne demain soir?
Oui, le Real part un peu avec la faveur des pronostics parce que depuis l'arrivée de Zidane, c'est un autre Real qu'on voit sur le terrain, un Real qui a du spectacle et efficacité. Mais comme vous l'avez dit, attention à Dortmund, c'est des jeunes qui jouent bien, surtout que Aubameyang est en forme. Donc c'est du 70-30 pour moi, Nicolas Pineau.
Merci beaucoup. Amine Birouk, votre avis sur ce Real Madrid qui a déjà 7 points de retard sur le FC Barcelone en Liga, qui s'est rattrapé victoire 2-1 contre Alaves, évidemment ce week-end. Est-ce que la suspension de Cristiano Ronaldo lors des 5 premières journées, c'est vraiment ce qui explique ce retard à l'allumage en Liga pour le Real?
Peut-être un manque d'efficacité devant le but. Cristiano Ronaldo est revenu il y a 2 journées. Il a tiré une douzaine de fois devant le but. Il n'a toujours pas réussi à scorer. C'est plutôt un manque de confiance ou plutôt un manque de réussite ou plutôt de la maladresse, parce que le Real Madrid n'a inscrit que 11 buts en Liga. Ça suppose que c'est une équipe aujourd'hui qui a du mal à concrétiser les occasions. Elles se produisent, le club arrive à se créer des occasions, mais pour le moment, l'absence de Benzema fait beaucoup de mal à l'attaque du Real Madrid. Et puis, il y a toute une cascade de blessures. Il y a Marcelo, il y a Kovacic, il y a d'autres joueurs qui sont absents, qui risquent de manquer face à une équipe de Dortmund. Il y a une statistique qui est intéressante, c'est que le Real n'a jamais gagné à Dortmund. Sur les 6 déplacements qu'il a effectués là-bas, il y a eu 4 défaites pour 2 matchs nuls. Donc, a priori, dans ce chaudron noir et jaune et noir, face à une équipe qui est dominatrice pour l'instant de la Bundesliga avec une ligne d'attaque de feu, avec un entraîneur qui arrive de l'Ajax et qui a des principes offensifs, les Allemands risquent de faire très mal à cette équipe du Real.
Ouais, donc Amine qui donne déjà presque le résultat. Match nul ou défaite pour le Real, on vérifiera ça évidemment demain. Autre match, évidemment, Séville contre Maribor et puis le Shakhtar Donetsk qui va avoir fort à faire évidemment sur la pelouse de Manchester City, l'ogre Manchester City, vainqueur 5-0 contre Crystal Palace ce week-end en Première Ligue et vainqueur 4-0 contre Feyenoord, ça va être intéressant. On suivra ça évidemment sur VOA Afrique. Voilà, vous l'entendez, la musique de fin de cette émission. Ainsi s'achève ce Sporama. On va remercier évidemment Yacouba Ouédraogo qui était avec nous dans ce studio. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
On va remercier également Amine Birouk qui était avec nous. Bonsoir Amine. On va remercier également Élisée Oumpatine qui était avec nous depuis le Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Et enfin on va remercier celui qui était avec nous en direct de Paris, Amdinsi. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
Pour la mise en onde, Michel Joseph et Fred Nerkayemit, Nicolas Pineau à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique.
Tous Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.